RCF.
Les casques sont mis, les micros sont ajustés. On peut débuter le 18-19 régional animé ce soir par Alexis Claudretz.
Effectivement, on est bien en place pour vous accompagner jusqu'à 19h dans ce 18-19 en Champagne-Ardenne avec, comme tous les mardis, Jean-François Boulanger pour un numéro de Mémoire chrétienne. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
On ne sera pas bien original aujourd'hui puisqu'on va de nouveau parler du 15e centenaire du baptême de Clovis, mais il faut dire qu'il y en a des choses à dire. Ce 5e épisode, à quoi sera-t-il consacré ?
Alors, il sera consacré au fait que ce 15e centenaire, ce sera en fait la mémoire d'une conversion, de la conversion d'un individu.
Eh bien, on vous retrouve dans quelques secondes pour en parler. Il y a du monde en studio, notamment notre stagiaire à la rédaction, Mélissa Tavares, bonsoir.
Bonsoir.
On vous retrouvera à l'intérieur du journal régional de 18h30 avec la page météo. À l'intérieur du journal, ça sera l'occasion de présenter le portrait d'une danseuse ardennaise de 24 ans, Luane Chrétien, qui participe à un show à Disney actuellement. Nous serons également aussi ce soir avec Francis Blin, qui est le maire de Trigny, dans la Marne. Et puis en deuxième partie d'émission, on fera de nouvelles rencontres, celle de François Lebeil, qui est président de l'UDAF de la Marne, l'Union départementale des associations familiales. On sera également avec Raphaël Blanchard pour évoquer cette année olympique et paralympique, notamment le passage de la flamme olympique par la ville de Reims, dont Raphaël Blanchard est adjoint délégué au sport. Il est aussi vice-président du département de la Marne, en charge des sports, bien évidemment. Et puis un petit tour du côté d'Épernay. Épernay, mon amour, c'est la directrice de l'Office de tourisme Champagne, Laurence Prévost, qui nous en parlera. Tout cela, ça sera en deuxième partie d'émission. 18h12 dans le magazine régional, Jean-François Boulanger est en direct avec nous. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
15e centenaire du baptême de Clovis, épisode 5, mémoire d'une conversion. Dans les émissions précédentes, vous nous avez dit que la commémoration du baptême de Clovis en 1996, pardon, était particulièrement délicate. Pouvez-vous nous rappeler pour quelles raisons, Jean-François ?
Oui, effectivement, on rappelle un peu des épisodes précédents, c'est que dès le début de la préparation de l'événement, qui a commencé en 1990, Monseigneur Ballan, archevêque de Reims, avait mis l'accent sur le risque d'une récupération de l'événement par des groupes intégristes ou des groupes d'extrême droite. Et donner une dimension européenne à l'événement, en s'appuyant sur le fait que les frontières du Royaume des Francs n'étaient pas celles de la France actuelle, mais intégrer au contraire des régions aujourd'hui allemandes, la Rhénanie, belge, voire néerlandaise, risquait aussi d'entraîner des polémiques à partir du moment où Jean-Marie Le Pen s'était pour ainsi dire invité, si l'on peut dire, à la cathédrale de Reims pour lancer sa campagne contre, pour le non au traité de Maastricht.
Finalement, quel contenu l'Église va-t-elle donner à cette commémoration ?
Alors ça va être difficile, mais la solution va venir d'un historien qui s'appelle Michel Rouche.
Qui est Michel Rouche, Jean-François ?
Alors Michel Rouche nous a quittés en décembre 2021 à l'âge de 87 ans. C'était un médiéviste, un historien médiéviste, spécialiste du Haut Moyen-Âge, dont les recherches avaient porté principalement sur la création des royaumes barbares, notamment le royaume wisigoth. Mais nous lui devons aussi une biographie de Clovis qui est parue justement en 1996, au moment du 15e centenaire. Il a été professeur à la Sorbonne, mais aussi à l'Institut catholique de Paris. C'est un catholique convaincu qui a participé aux réunions de préparation du 15e centenaire du baptême de Clovis qui ont eu lieu à partir de 1990 à Reims et dont on a parlé dans la première émission. Et dans une lettre qu'il adresse au secrétaire de l'association Mémoire du baptême de Clovis, le 5 juin 1992, il propose une nouvelle approche du centenaire qui va s'imposer en raison des circonstances. Je le cite. La seule manière de faire de l'année 1996 une année commémorant Clovis sur le plan religieux exclusivement est de centrer l'année sur la conversion. Il ajoute « L'aspect profondément religieux et personnel de la conversion de Clovis, effectivement, c'est l'expression qu'il utilise, et moi je commente, ça va démorcer un peu les implications politiques de l'acte, le baptême d'un individu n'étant pas celui de la France. »
Quel écho le baptême d'un individu au début du Moyen-Âge peut-il avoir dans la France à la fin du XXe siècle ?
Alors effectivement, ça peut sembler très loin, mais en même temps, ce nouvel axe de la commémoration peut avoir un écho particulier en France à un moment, 1996, la fin du XXe siècle, mais les choses n'ont guère changé depuis, où le baptême des enfants ne va plus de soi, où il ne se fait plus immédiatement après la naissance, comme ça s'est fait pendant longtemps, mais parfois longtemps après, et où, inversement, il y a de plus en plus d'adultes qui demandent le baptême, qui justement ne leur a pas été donné dans leur prime enfance. Et dans ce cas, le baptême peut relever d'une démarche de conversion.
Comment cela se traduit-il, notamment dans les homélies de la fête de Saint-Rémy qui prépare la commémoration dans les années qui la précèdent ?
Alors effectivement, ces homélies sont importantes. On en a parlé dans d'autres émissions, notamment celle de Monseigneur de Courtrai. Mais c'est Monseigneur de Foix qui vient d'être nommé archevêque de Reims parce que Monseigneur Balland est parti à Lyon, qui prononce cette homélie donc le 1er octobre 1995. Et voici la manière dont il présente le baptême de Clovis. Je le cite. « Le baptême de Clovis, comme tout baptême d'adulte, fut précédé chez Clovis d'une démarche de conversion. Cette année pour qu'il substitue l'amour à ses fringales de puissance. À travers ses défaites et ses victoires, la mort de son premier enfant et les espérances de Clotilde, il hésitera. Seule l'épreuve qui purifie et la réflexion qui suggère préparent son choix. » La vérité ne s'impose que d'elle-même et non par contrainte de quelque nature qu'elle soit, rappelle le Concile à propos de la liberté religieuse. C'est durant ce long catéchuménat que Clovis prend la décision de suivre le Christ au risque de compromettre et son pouvoir et ses alliances.
Comment Monseigneur de Foix tire-t-il la leçon de ce baptême pour aujourd'hui ?
Alors, il va répondre à ma place, c'est plus simple, je le laisse parler, je le cite. La crise de conscience du roi des Francs n'est rien d'autre que la permanente mise en question de notre existence par l'Évangile. Il n'est pas de baptême, ni hier, ni aujourd'hui, sans conversion, c'est-à-dire sans mise à l'épreuve de nos certitudes, sans ébranlement de nos idoles et de notre nature, sans appauvrissement de nos possessions et de nos alliances. Et il conclut, je cite toujours, « Il est urgent de retrouver le souffle catéchuménal du baptême, de la conversion à l'Évangile. » De même que le baptême de Clovis a ensemencé la France de valeurs et d'espérances chrétiennes, l'évangélisation d'aujourd'hui nous conduit à prendre en compte les ruptures de civilisation et les conflits de valeurs qui perturbent la société européenne.
Y aura-t-il des manifestations particulièrement consacrées au baptême et aux baptisés d'aujourd'hui pendant l'année du 15e centenaire, Jean-François ?
Oui, et il y aura notamment un colloque sur le baptême intitulé « Baptême baptisé d'aujourd'hui ». Baptisé au temps de Clovis, est-ce si différent ? Il a lieu du 3 au 5 septembre 1996. Y participent 80 laïcs, 25 religieuses et 40 prêtres. On y met l'accent sur le fait que la pratique du baptême a évolué depuis plusieurs dizaines d'années en raison notamment des mutations qui marquent le monde contemporain. On réfléchit donc sur une pastorale qui évolue. Quand le baptême était célébré quam primum, souvent à la maternité, sans préparation, je cite, les parents étaient censés partager la foi d'une église qui s'estime majoritaire. Mais justement, aujourd'hui, le baptême n'est plus simplement un sacrement, c'est plutôt une fête familiale. Alors, pour que les sacrements, je cite toujours, ne soient plus livrés à l'incroyance, l'accent est mis sur la motivation de la demande. Une déclaration d'intention est demandée aux parents. Et pour tenir compte de l'évolution sociologique, trois rituels vont permettre le baptême à tout âge. Le BPE, baptême pour enfants, le BEAS, baptême d'enfants en âge scolaire, et le BA, baptême d'adultes. Ces rituels, en fait, répondent à une grande diversité de demandes, tout aussi recevables, dit-on, sans qu'aucune soit dévalorisée. Avec l'idée, cependant, que le baptême pour adultes est en fait le modèle exemplaire.
Le rôle de Michel Rouge que l'on présentait il y a quelques instants dans le choix de la conversion comme thème central du centenaire a été important, voire on ose le dire central, Jean-François Boulanger. Mais quelle a été sa contribution personnelle à la mise en œuvre de ce choix ?
Alors, je l'ai cité parce qu'effectivement les documents le prouvent, mais personne n'en a parlé à l'époque de ce que j'ai dit, hein, de la lettre que j'ai évoquée.
On le sait avec le recul.
Voilà, on le sait avec le recul, avec la consultation des archives. Les historiens restent modernes, mais justement modernes aussi d'ailleurs. Hein. Mais sur le plan historique, le 15e centenaire a été l'occasion d'un grand colloque international qui s'est tenu à Reims du 19 au 25 septembre 1996, qui a été publié l'année suivante par les presses de l'Université de Paris-Sorbonne, avec un volume pour l'histoire, un volume pour la mémoire du baptême. Et dans le cadre de ce deuxième volume, un chapitre particulier a été consacrée à une séance de la Société d'Histoire de l'Église de France, c'est une société savante, qui a été consacrée aux conversions à travers les temps, de la conversion au IVe siècle par Nancy Gauthier, au rôle de convertisseur, de poète et d'intellectuel qu'a joué Paul Claudel et sur lequel s'est penché Frédéric Gugelot pour le XXe siècle, Frédéric Gugelot qui est aujourd'hui professeur à l'Université de Reims.
L'idée de la conversion personnelle de Clovis va-t-elle mettre fin aux polémiques, Jean-François ?
On aurait pu le penser, hein, mais justement, pas vraiment. Mais cette fois-ci, le problème ne viendra pas de l'extrême droite. De qui ? Ben, c'est ce que nous verrons la prochaine fois.
Voilà, un teasing en attendant la semaine prochaine. Ça ne vous a pas échappé qu'il nous reste 3 semaines avant les vacances ici sur les ondes de RCF en local.
Bon, on va finir par baptiser Clovis avant, hein, je vous rassure.
Bon, eh bien, très bien. On aura d'autres épisodes à connaître sur la mémoire de Clovis. On peut aller jusqu'à l'épisode 8, Jean-François Boulanger. On vous laisse mettre des mémoires que vous avez envie de nous partager. À très bientôt.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, on quitte Reims pour prendre cette fois la direction du massif de Saint-Thierry. On n'est pas très loin finalement. On va à Trigny, à une dizaine de kilomètres précisément, avec Francis Blin, le maire de la commune, qui nous parle ce soir avec Jean-Pierre.
Francis Blin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion pour nous d'aller à la découverte de votre commune, Trigny, et de vous-même en tant que maire de la commune. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Trigny, combien d'habitants, d'où viennent-ils, des personnes, agriculteurs, je ne sais pas, c'est vous qui allez nous présenter, Francis Blin.
La commune de Trigny est située au nord-ouest de Reims, à environ 10-12 km de Reims. On a à peu près 600 habitants sur la commune. Ensuite, on est, je dirais, historiquement et géographiquement et, je dirais, géologiquement, on est sur les massifs de Saint-Thierry. Je suis natif de la commune, donc je suis né à Trigny il y a déjà 71 ans et je connais très bien ma commune, évidemment. Dans ma profession, en fait, j'étais viticulteur, je suis en retraite depuis 6 ans, voilà.
Alors, effectivement, vous connaissez tout le monde, Francis
oui. Là.
Vous connaissez tout le monde. Vous avez dit combien d'habitants, Francis Blin ? J'ai pas tout à fait noté.
600.
Mais c'est déjà une grosse commune. Et justement, ces habitants, quelles sont leurs professions ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont des agriculteurs eux-mêmes ou...
L'activité économique principale, c'est la viticulture. On a sur la commune de Trigny 180 hectares de vignes. Donc on a quelque chose d'assez actif en termes de, je dirais, de viticulture. Pas mal de gens qui vendent leur champagne, qu'on a 3 pressoirs particuliers et on a une coopérative qui prend justement les raisins de pas mal de viticulteurs de Trigny.
Alors tout ça, c'est très très bien. Et est-ce que finalement, on dit souvent que les maires aujourd'hui, ils ont beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités. C'est un peu vrai quand même. Est-ce que vous avez aussi des projets qui sont en cours avec Trigny ou qui vont se dérouler dans les prochaines semaines ou les prochains mois ?
Oui, on a des projets en cours. En fait, c'est une ambition qu'on a toujours eue sur la commune de Trigny, c'est de faire évoluer notre patrimoine communal notamment. Donc on est depuis 3 ans en train de restaurer notre église, une église qui commençait à perdre, à avoir pas mal de problèmes de justement de toiture, de fuite, etc. Donc là, on est en train de, depuis 3 ans, on est en route. On a encore 3 opérations sur 3 ans encore. Et puis, normalement, on aura refait toute l'église en complet, c'est-à-dire toiture, charpente, les murs extérieurs, tout ça, ça va être refait.
Ça, c'est assez exceptionnel. C'est très, très bien. Et alors, on imagine la commune s'anime au moment des vendanges. C'est une vie tout à fait spéciale, hein, la vie des viticulteurs. Vous aviez quelques vignes ? Vous aviez des vignes, vous-même, Francis Blin ?
Oui, oui.
Ah oui,
oui. Donc, je suis en retraite, mais j'ai repassé les vignes à mon épouse, mais je suis toujours, j'irai plus ou moins dans les vignes.
On est viticulteur, on y reste tout le temps, hein, toute sa vie, on va pas abandonner ses terres. Et en tant que maire, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui le Grand Reims, mais le maire, il est toujours quand même un personnage dans la commune. On reconnaît le maire. C'est l'élu le plus proche. Les Françaises, dans les sondages et les Français, quand on les interroge, dire quel est l'homme politique, quel est l'élu que vous appréciez le plus, tous ils disent c'est le maire. Parce qu'on le voit, on lui pose des questions, il répond, etc.
Voilà, exactement. Le fait d'être natif du village fait que, bon, j'ai quand même une certaine renommée sur le village, enfin, sans prétention, je dirais, par rapport à ça. Et donc, en plus d'être maire, peut-être que vous le savez, je suis également vice-président du Grand Reims en charge de l'eau et assainissement.
Ah, vous êtes vice-président du Grand Reims ? Ah, absolument. Donc c'est une charge aussi importante, parce que je sais, par exemple, avec François Mourat qui nous en parle avec la voirie, il y a un nombre de réunions assez important, assez conséquent.
Tout à fait. On est très, 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 très investis, justement, dans nos responsabilités réciproques, ça va, que ça soit en tant que maire ou en tant que vice-président. Mais en fait, je vous dis, j'assume ça avec beaucoup de volontarisme. Je me force pas, je me réveille le matin, je suis content au moins d'exercer mes responsabilités.
Alors finalement, il y a toutes ces activités, mais il y a aussi certainement pour vous l'occasion de vous organiser, parce que souvent on dit vie familiale, vie professionnelle. Bon, si vous êtes en retraite, bon, disons que ça facilite un tout petit peu les choses. Mais enfin, si vous aidez à la vigne, vous êtes relativement pris quand même, effectivement, oui. Francis Blin.
Oui, alors c'est vrai que donc, ça fait quand même déjà, c'est mon troisième mandat de maire. Je suis élu depuis 1989, donc ça fait déjà mon sixième mandat d'élu, donc je connais justement les problématiques particulières entre le professionnel et la vie d'élu. Au moment où j'exerçais encore ma profession de viticulteur, c'est vrai que j'ai dû sacrifier un peu de temps professionnel pour ma vie d'élu. En fait, pour la vie d'élu, j'ai même dû employer une personne pour pouvoir m'aider dans mes fonctions de la vie professionnelle. On l'assume. En tant que maire, moi, je pense que ça fait partie, ça fait partie de notre ADN. C'est le terme que je peux utiliser. Mais je suis toujours investi pour essayer de rendre le maximum service à mes proches, aux gens que je côtoyais dans la commune. Et maintenant, ça s'est élargi au niveau du Grand Reims.
Comment s'appellent les habitants de Trigny, Francis Blin ?
Tréniciens et
Tréniciennes. Alors, quand vous rencontrez les Tréniciennes et les Tréniciens, quand vous les rencontrez dans la rue, j'imagine qu'ils vous abordent tout le temps pour vous demander quelques services, c'est normal.
Oui, bon, c'est monsieur le maire, ou alors on m'appelle Francis. Bon, tous ceux qui me connaissent bien, c'est Francis. Bon, c'est vrai qu'il y a souvent des requêtes, mais on essaie de trouver. Alors, souvent, les requêtes, ça correspond, parfois, c'est plutôt de l'urbanisme. Une personne qui a un projet d'extension d'habitants, de construction d'une habitation, etc., ils viennent nous consulter pour avoir des conseils, tout en sachant qu'on a déjà des documents d'urbanisme qui sont déjà très élaborés. On a un PLU sur la commune de Trigny qui permet déjà de déterminer qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Mais il y a toujours un contact, hein, et les gens essayent de voir un petit peu ce qu'on peut leur proposer en termes de conseils.
On pose toujours la même question, d'ailleurs, aux maires qui sont interrogés sur RCF. Dans cette émission, votre maire nous parle. Finalement, au final, est-ce que vous êtes un maire heureux ?
Oui, sincèrement, oui, je ne me plains pas justement de cette responsabilité. En fait, oui, je suis un maire heureux parce que j'aime bien ce que je fais. Et en fait, je suis très passionné par mon engagement et je le fais vivre, mon engagement. J'essaie de le partager notamment avec mes conseillers municipaux. On a également une secrétaire de mairie avec laquelle je partage justement cette passion pour l'intérêt général.
Eh bien, moi, je trouve que c'est formidable. Merci, Francis Blin, d'avoir été avec nous, maire de Trigny. Faites-nous une promesse, c'est que de temps en temps, évidemment, s'il se passe quelque chose à Trigny, eh bien, vous nous appelez sur RCF, même en dehors de cette émission. On relayera vos informations, s'il y a de l'animation dans le village. Et puis, on vous envie un peu, parce qu'on on vous imagine au milieu des vignes, là, mais c'est formidable. Quelle que soit la saison, il y a toujours quelque chose à faire, de toute façon.
Tout à fait.
Merci en tout cas Francis Blin d'avoir été avec nous et à très très bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Effectivement, merci à tous les deux. Francis Blin, le maire de Trigny, donc à une dizaine de kilomètres de Reims. Et puis à Jean-Pierre Benoît, qui on le retrouvera tout à l'heure pour interviewer notamment Raphaël Blanchard, adjoint délégué au sport de la ville de Reims, vice-président du département de la Marne en charge des sports. Il nous parlera d'une année olympique et paralympique exceptionnelle, notamment avec le passage de la flamme olympique, mais aussi le passage de la flamme paralympique dans le département. Tout cela, c'est en deuxième partie d'émission avec Épernay Mon Amour et Laurence Prévost et François Lebègue, président de l'UDAF de la Marne. Mais vous le savez, à 18h30, c'est l'heure du journal régional. Avec les titres de ce mardi 6 février, à 24 ans, Luan Chrétien danse actuellement à Disney dans le spectacle musical Together, une aventure musicale Pixar. Elle nous emmène dans les coulisses. Les deux derniers HLM du quartier Le Hamois de Vitry-le-François, les Pans et les Verdiers deviennent des résidences. Reportage.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Avec une question pour Mélissa, notre stagiaire à la rédaction. Mélissa, vous utilisez en moyenne votre téléphone portable combien d'heures par jour ?
Beaucoup déjà, mais bah, depuis que je suis en stage, un petit peu moins. Mais
ah donc
bien...
vous travaillez plus en stage qu'au lycée ?
On ne peut rien dire, mais ouais, j'ai bien une petite dizaine d'heures quand même.
Une dizaine d'heures par jour, c'est énorme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous ai vu sur votre téléphone que vous avez un petit peu traîné dessus, mais comme tous les jours, et moi aussi d'ailleurs, je le fais, hein, Mélissa, c'est pas un reproche que je vous fais, mais vous savez que ce mardi 6 février marque la journée sans téléphone portable. Pendant 24 heures, Mélissa, on ne décroche pas aux appels, on ne répond pas aux SMS, et on n'utilise pas non plus ses réseaux sociaux. Pas toujours évident à faire à une date imposée, comme nous là qui travaillons. C'est pourquoi, si vous n'avez pas pu le faire aujourd'hui, cette journée qui normalement initialement est prévue le 6 février, vous avez la possibilité de la reporter demain, mercredi, le 7 février, ou jeudi également. Donc peut-être que vous passerez une journée sans téléphone. Celui pour qui c'est le plus facile à faire à la radio, je pense que c'est celui qui est derrière la régie, là-bas, ça doit être notre ami Fabrice Gironnet. Il pourrait très bien se passer de téléphone portable.
Bah déjà, il est jamais relié à Internet, donc déjà les réseaux sociaux, on va laisser tomber. Les appels, j'en fais jamais. Et les SMS, bah, quand je reçois, oui, il m'arrive de répondre par politesse.
Bon, vous nous répondez quand même, c'est déjà ça, Fabrice. C'est une bonne nouvelle. Depuis le mois de juillet 2023, Disney propose un spectacle musical Together, une aventure musicale Pixar, guidée par une direction artistique audacieuse qui mélange des technologies traditionnelles et de pointe, des éclairages créatifs, des effets multisensoriels et une chorégraphie moderne, le tout accompagné de musique emblématique ainsi que d'une partition originale. Le spectacle réunit une trentaine d'acteurs, chanteurs et danseurs. Au casting, Luan Chrétien, une Ardennaise de 24 ans, qui nous raconte comment elle vit l'aventure.
Ça se passe plutôt bien, c'est même très cool comme spectacle. On voit de nouvelles choses et c'est un spectacle assez innovant, assez immersif. Donc on s'éclate, on a une bonne équipe et je vous conseille d'aller voir le spectacle qui est vraiment cool. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de Charlie. C'est un enfant, son rêve, c'est d'être chef d'orchestre. Et en fait, il perd ses partitions en jouant, en s'entraînant. Donc il y a un orchestre en live qui joue la musique, donc c'est vraiment bien. Et en fait, l'histoire, c'est que le public va se balader un peu dans tous les films Pixar. Donc il va y avoir Nemo, Lao, Coco. Et en fait, à chaque fois, le but, c'est par les personnages Pixar de retrouver les partitions. Donc à chaque fois, il y aura des danseurs qui vont mettre en vie tout ça, des marionnettistes, des performeurs, genre on peut voir Buzz l'éclair, Woody, voilà.
Si l'équipe travaille dans la bonne ambiance au quotidien, la rigueur est de mise sur scène, notamment au moment de changer les costumes qui font toute la magie du show.
Le spectacle, les costumes sont un peu particuliers, c'est-à-dire qu'on est complètement masqué dans le spectacle, donc on a une vision assez réduite. Et du coup, on amasse plusieurs couches de vêtements où au fil du spectacle, on retire. C'est un peu ça, la supercherie. Et je peux pas trop en dire plus non plus. On a des habilleurs qui nous aident à nous changer pendant le spectacle parce qu'on a vraiment des changements rapides, rapides. Donc comme je dis souvent, le changement le plus rapide, c'est 19 secondes. C'est très rapide. Et du coup, faut pas qu'il y ait un petit couac parce que sinon, on rentre pas sur scène.
Le spectacle est à découvrir à Disneyland Paris jusqu'à la mi-mai. Luan fera partie de l'aventure jusqu'au bout, mais elle prépare déjà l'avenir en enchaînant d'autres castings. En parallèle, elle continue de se former et de dispenser des cours de danse. Toute son actu est sur sa page Instagram, luan-cht. Une interview complète pour vous, les auditeurs de RCF, sera à retrouver le 15 février prochain dans le Sportiplex Le Mag. 200 zombies ont été extraits du sable hier à Brimont, près du fort, à une dizaine de kilomètres de Reims. Découverts samedi lors de travaux de terrassement, ils ont nécessité l'intervention du service de déminage de Châlons-en-Champagne. Les munitions ont été évacuées pour être détruites, mais les fouilles ont continué aujourd'hui. Il s'agirait vraisemblablement d'un lieu de stockage abandonné par les Allemands pour une raison inconnue. Le fort de Brimont avait été aux mains des Allemands entre 1914 et 1918 et un lieu de dépôt pour la Wehrmacht entre 1940 et 1944. Après des gros et longs travaux de réhabilitation dans le quartier du Hamois de Vitry-le-François, réalisés par le bailleur social Le Foyer et moi, les deux derniers HLM, Les Pans et Les Verdiers, deviennent des résidences. L'inauguration a eu lieu il y a quelques jours en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Vitry-le-François, Djilali Guerza, du maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, et de Vincent Allier, directeur général du Foyer et moi, Régine Conrault, membre du conseil citoyen du quartier du Hamois et locataire de l'une des résidences, revient sur les rénovations.
Ces deux blocs-là, c'est les deux seuls qui restent à ce quartier du Hamois et qui sont rénovés en résidence. Tout le restant va tomber et nous, on est restés. Voilà.
Ah oui, parce qu'on peut quand même préciser, Régine, que vous habitez l'un des deux immeubles.
Voilà. Donc, on nous a refait nos appartements. Vraiment, on peut dire que c'est beau. C'est vrai, c'est beau. C'est très chic, hein, on dira, d'extérieur. Et les intérieurs ont été refaits au niveau même chauffage, tout. Enfin, tout les électricités, enfin, tout. Et c'est vrai que c'est joli maintenant. Donc là, c'est l'inauguration et tous les travaux vont être finis pour la fin février. Des petits raccords à faire, des petites choses, voilà. Donc fin février, ça y est, on sera tout à fait terminé.
Et vous serez donc enfermé dans votre résidence?
Oui, tout à fait. La résidence va être close puisque le parking, tout est privatisé. Donc tout est fermé. On aura même un petit parc entre les deux résidences. Finalement, ils ont planté des arbres. On va avoir de la pelouse avec des bancs. Et on aura notre petit jardin personnel pour les résidences aussi.
Régine Conrault au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet de la rédaction, évidemment, de RCF. Vous l'avez compris, le quartier du Hamois de Vitry-le-François, inscrit dans le cadre du plan de renouvellement urbain, va voir sa transformation arriver vite. Dès mai-juin 2024, les premiers coups de pioche vont être donnés pour la construction de 220 nouveaux immeubles après la destruction de 1300 appartements du quartier qui se termine. 18 à 24 mois de travaux seront nécessaires pour voir naître le nouvel écoquartier de Vitry-le-François. 20e journée de Pro B pour le Champagne Basket qui reçoit Denain Voltaire à l'Arena de Reims ce soir à 20h. Actuellement sur une série de 4 victoires consécutives, les Marnais, 11e, peuvent revenir à hauteur de leur adversaire du soir en cas de succès. À 18h37, on passe à la météo avec notre stagiaire Mélissa Tavares. Elle a repris son souffle après avoir craché ses poumons. Mélissa, tout va bien, on l'espère, on t'écoute. Tu as une minute pour présenter cette belle météo.
Eh bien, c'est parti. Ce mercredi, le temps sera morose dans l'ensemble des départements de la Champagne-Ardenne. Le matin, le temps sera triste avec un ciel très nuageux du côté des départements de la Marne, l'Aube et de la Haute-Marne dans les villes de Reims, Troyes et Chaumont. La pluie arrosera les Ardennes comme à Vouziers. Les températures seront plutôt fraîches, principalement dans la Haute-Marne où les thermomètres afficheront au minimum 7 degrés et dans la Marne et l'Aube au maximum 10 degrés. Pour l'après-midi, dans les Ardennes, la pluie ne partira pas de sitôt et elle s'étendra aussi dans les villes de la Marne comme à Châlons-en-Champagne. Pas de changement pour les départements de l'Aube et de la Haute-Marne dans les villes de Romilly et de Saint-Dizier où le ciel sera toujours envahi par les nombreux nuages gris. Les températures grimperont légèrement de quelques degrés où le mercure montera au maximum jusqu'à 11 degrés. Demain, nous fêterons les Eugénies. Nous vous souhaitons une bonne fête à tous.
Merci Mélissa, on se joint à toi pour souhaiter une bonne fête aux Eugénies. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Et la suite de cette émission, c'est la 3e édition de l'opération Épernay mon amour qui va se dérouler dans l'agglomération d'Épernay à partir du 14 février, jour de la Saint-Valentin, jusqu'au 18 février. Proposé par l'Office de tourisme Épernay en Champagne, plus de 50 rendez-vous sont proposés. Laurence Prévost, directrice de l'Office de tourisme Épernay en Champagne.
Laurence Prévost, bonjour.
Bonjour Gérald.
Directrice de l'Office de tourisme Épernay en Champagne. Et dans quelques jours, eh bien, l'opération Épernay mon amour se reproduit.
Absolument Gérald, effectivement, dans quelques jours du 14 au 18 février, 3e édition d'Épernay mon amour avec l'amour au rendez-vous.
Les rendez-vous, il y en a plein.
Alors, il y a beaucoup de rendez-vous. C'est une opération qui est destinée à tous les amoureux d'ici et d'ailleurs. Nous proposons des offres spécifiques entre le 14 et le 18 février. car voilà, le champagne est traditionnellement associé aux célébrations, aux festivités, mais il accompagne aussi les rendez-vous galants. Donc partager une coupe de champagne, un bon repas, un ciné à deux, ça fait partie des moments privilégiés de l'existence.
Ces rendez-vous, ils sont sur toute l'agglomération d'Épernay ?
Sur l'agglomération d'Épernay et bien au-delà, puisque Épernay Mon Amour aujourd'hui embarque une trentaine d'offres à destination des habitants et de nos visiteurs. C'est à Épernay même, c'est sur le territoire de notre agglo et bien au-delà aussi, puisque l'idée d'Épernay Mon Amour, c'est une bannière globale de communication pour embarquer des initiatives amoureuses, des moments privilégiés à vivre à deux ou entre amis.
J'ai vu qu'il y avait du chocolat à manger. En général, le chocolat, c'est plutôt Pâques.
Mais c'est aussi pendant la Saint-Valentin, puisque on va pouvoir réaliser pour la deuxième année un gros cœur gourmand en 2024 avec deux artisans chocolatiers, avec Vincent Dallet et Xavier Thibault, qui vont nous faire un cœur géant au chocolat. Et ce cœur géant au chocolat, ben, les auditeurs pourront le découvrir à l'office. C'est une grande taille, ce grand cœur en chocolat. Notre volonté, c'est de pouvoir offrir ce cœur géant au chocolat à une association locale du Secours Populaire Français et Copains du Monde pour que des enfants profitent de cette magnifique gourmandise.
Gourmandise dans le sens où les gens font participer à l'achat d'un petit bout de chocolat ?
À l'office de tourisme, nous allons vendre du chocolat noir, du chocolat au lait, et nous contribuons à la réalisation de ce cœur en chocolat. Ensuite, on a la chance d'avoir deux artisans très engagés, voilà, collectivement, ensemble, et au niveau entre l'office, Vincent Dallet et Xavier Thibault, nous allons pouvoir mettre en place, et pour la deuxième année, cette très belle opération. Et on en est très heureux puisque des enfants en profiteront.
Pour les plus grands, qu'est-ce qu'on leur propose ? Une soirée au cinéma ?
Pour les plus grands, on propose plein de choses. Évidemment, le cinéma, le Palace, qui est également partenaire de cet événement. Et donc, au niveau du cinéma, on va avoir cette année un film culte sur grand écran avec un quiz sur les films d'amour. Et donc, j'invite... voilà, tous les auditeurs à venir vivre cette expérience au cinéma sur grand écran pour voir un film culte, et ça va être une parenthèse singulière, enchantée, le temps de ce film. Voilà, nous avons une palette d'expériences à proposer très diverses. J'ai envie de dire qu'il y en a pour vraiment tous les goûts. Chacun trouvera son bonheur. Alors, on s'inscrit sur le site de l'office, www.epernay-tourisme.com.
Laurence Prévost, merci.
Avec grand plaisir, Gérald.
Je précise que vous êtes la directrice de l'Office de tourisme Épernay en Champagne.
Laurence Prévost au téléphone avec Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Les inscriptions se font sur le site internet epernay-tourisme.com. Renseignements complémentaires au 0326 53 33 00.
Le 18-19 sur RCF.
Notre invité désormais dans cette deuxième partie d'émission est Raphaël Blanchard, adjoint délégué au sport de la ville de Reims, vice-président du département de la Marne en charge des sports. En cette année olympique, il y a pas mal d'événements à présenter au micro de Jean-Pierre.
Raphaël Blanchard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors c'est vrai que vous êtes à la fois chargé des sports à la ville, on l'a compris, comme adjoint, mais aussi au conseil départemental. C'est quand même une activité qui vous passionne et une activité très prenante, par en ce moment il y a beaucoup d'actualités, la vie des clubs évidemment, mais 2024 c'est une année olympique et c'est de cela que nous allons surtout parler aujourd'hui. La flamme olympique, c'est pour bientôt quand même.
Ah, c'est dans très peu de temps et on est dedans avec Paris 2024 et les sept territoires choisis pour le département de la Marne depuis déjà de nombreux mois, pour pas dire une bonne année, à la fois sur les aspects de sécurité, les aspects d'animation et de coopération entre les territoires. Donc ça demande beaucoup de réunions, mais ça se précise.
Quand on dit la flamme olympique, il faut voir que c'est un parcours national, qu'on vient d'ailleurs, qu'on va aller ailleurs, et on passe par notre région. C'est un peu ça.
Tout à fait. Le département de la Marne a choisi, avec Christian Bruyen, succédé ensuite par Jean-Marc Rose, de permettre au département d'accueillir la flamme olympique le 30 juin. On a la chance, c'est un dimanche, donc ça va permettre à toutes les activités de se mettre en place. Et avec l'ensemble de l'Assemblée départementale, on a essayé de, au travers de ce parcours, un contraint, au travers d'une seule journée pour faire le tour de tout le territoire, d'être le plus représentatif. Et donc, 7 territoires ont été retenus qui représentent au mieux le territoire marnais, en partant de Vitry-le-François, en faisant une petite incursion Auder jusqu'à Sainte-Menoux et l'Argonne, le pays chalonnais. Ensuite, nous sommes à Cézanne, en passant par Épernay, et enfin la belle ville de Reims, qui est, elle, ville étape en tant que bassin de vie principal du territoire.
Alors, ville de Reims, ville étape, on va en reparler, mais qui sont ces porteurs de la flamme ?
Alors, ces porteurs de la flamme, il y en aura à peu près une centaine sur le département, répartis en plusieurs quotas ou en plusieurs groupes, choisis à la fois par les partenaires de la flamme olympique, j'entends des entreprises, Paris 2024 en tant qu'organisateur, les fédérations sportives par ailleurs, à peu près 30% chacun, et 10% les collectivités. Collectivité, le département financeur du parcours de la flamme dans la Marne, au travers de 4 relayeurs, et la ville de Reims, au travers du ville étape, pour 4 relayeurs par ailleurs.
Évidemment, il y a un choix. Vous avez dû faire des choix, choisir des sportifs en général.
Un choix très difficile. Vous imaginez que de choisir 6 ou 4 personnes sur l'ensemble du territoire rémois et marnais, c'est compliqué. Et on a travaillé de concert dans une forme d'équipe, à la fois au département avec Christian Bruyen, la direction des sports, l'ensemble des directions de la collectivité, et de la même manière avec Arnaud Robinet et l'ensemble des directions de la ville de Reims, pour avoir des personnes qui représentent les valeurs de l'olympisme, la réussite sportive sur le territoire, la parité, hein, qui est une obligation et qui est un vrai objectif de Paris 2024 depuis l'origine du projet, et aussi la diversité des profils de sportifs, à la fois sport adapté, handisport, sport pour les valides, et l'ensemble des disciplines sportives, à la fois collectives et individuelles. Donc c'est très compliqué, mais en tout cas on y est arrivé, je pense, à trouver 10 candidatures pour ces 2 collectivités qui portent le territoire, en plus du 11e qui s'est ajouté il y a peu, au travers d'une bénévole rémoise. On aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Alors justement, Raphaël Blanchard, les sportifs vont être à l'honneur, la flamme olympique, le 30 juin, avec un rendez-vous, vous l'avez dit, c'est à Reims, ville étape, et là, ce sera aux promenades ou du côté de la Porte Mars. Là, on va attendre du monde, on va voir tous ceux qui font marcher cette flamme olympique.
Tout à fait. Alors, je n'ai pas vécu personnellement le passage de la flamme olympique lors des Jeux d'hiver d'Albertville en 92, mais j'ai la chance d'avoir un collègue, Stéphane Lang, qui a pu m'en rapporter les éléments et qui me disait la ferveur qu'il y avait autour de ce parcours de la flamme. Et donc, on attend en effet beaucoup, beaucoup de monde sur l'ensemble des territoires, à Reims particulièrement, parce qu'on sera ville étape. Donc, ça veut dire que la flamme va être en mode stationnaire pendant à peu près 2-3 heures à Reims, avec des animations, des activations, comme pour reprendre le langage de Paris 2024, mais dans l'ensemble des 7 territoires précédemment cités, il y aura les collectivités avec le support du département, à la fois financier et en moyens humains, pour accompagner la dynamique, notamment au travers de villages associatifs, d'épreuves sportives, peut-être la possibilité pour certaines collectivités de faire gagner des places pour aller regarder les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc, plein de choses, mais à Reims, en effet, un élément central. Donc, en effet, on sera un dimanche soir sur les hautes promenades, hein, déjà un lieu où il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein, ce lieu rénové par Arnaud Robinet dans le cadre de son projet en 2020, et qui va vivre au travers de l'intensité sportive, à la fois une partie officielle Paris 2024, avec un certain nombre d'activations qui seront les leurs et qui passeront de territoire en territoire, mais aussi un village, des activations, nous, des animations, à la fois sur l'autre promenade, mais on
ça,
pense aussi...
Ça, c'est pour le 30 juin.
C'est assez pour le 30 juin.
Un rendez-vous exceptionnel.
Et tous les clubs, tous les clubs du département, les comités départementaux seront associés à ce moment, entre guillemets, rémois, qui sera phare, même s'ils seront, bien entendu, présents dans l'ensemble des territoires.
Un événement qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas minimiser, car c'est très, très important, les Jeux paralympiques.
Tout à fait.
Ça, c'est un peu plus tard, c'est au mois d'août.
C'est un peu plus tard, c'est fin août, début septembre, et on aura la chance, au travers de notre engagement reconnu, notamment en septembre dernier, avec la venue d'une délégation Paris 2024 à Chalon, dans le cadre d'un gymnase inclusif, d'avoir un moment fort, le passage de la flamme paralympique, qui, elle, il y aura 12 flammes qui convergeront vers Paris en 4 journées et sur lequel Châlons-en-Champagne, après avoir été à Amnéville, sera un village phare, une ville étape de la flamme paralympique avec une forte mise en valeur notamment du sport adapté dont le président de la fédération, hasard ou pas, et porteur de la flamme pour le département de la Marne.
Voilà un très beau symbole présenté par Raphaël Blanchard. On l'a bien compris, le département de la Marne et plus particulièrement la ville de Reims soutiennent donc le passage de la flamme olympique et de la flamme paralympique. On va passer de très très beaux moments pendant cet été à partir du mois de juin, juillet, août. Ça va vraiment être une fête aussi ici en local. Merci Raphaël Blanchard d'avoir été avec nous pour nous présenter ces rendez-vous au micro de Jean-Pierre. On vous retrouvera également dans le Sportiplex, le mag cette semaine sur RCF France-Ardennes. Ça sera jeudi soir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Selon les dernières études de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, la fécondité ne cesse de baisser depuis 2010, même si les désirs d'enfants sont toujours présents au sein des familles, elles en veulent moins qu'avant. Décryptage de ces données avec François Lebec, président de l'UDAF de la Marne, au micro de Christopher Fausten.
François Lebec, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur les dernières études de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, sur la fécondité qui ne cesse de baisser depuis de nombreuses années, depuis d'ailleurs 2010. François Lebec, comment expliquez-vous cette situation ?
Alors, la situation s'explique. Alors, on retrouve un peu les mêmes marqueurs qu'il y a une douzaine d'années, mais qui n'engendrent plus, comme vous l'avez souligné, des naissances complémentaires, puisqu'on a perdu à peu près 100 000 naissances en 10 ans. On est passé de 800 000 annuels à 700 000, donc là, dernièrement, 2023. Avant d'aborder les raisons, ce qui est important, c'est d'évoquer ce qui est toujours d'actualité dans le désir d'enfant des familles.
Oui.
Donc là, le désir d'enfant reste très enraciné au niveau des familles, puisque 7 parents sur 10 ont toujours cultivé cette aspiration d'avoir des enfants. Et sur les valeurs, donc la famille stable, la recherche de l'amour, à être aimé, être aimé, et puis la transmission de valeurs. Donc ça, ce sont des racines très forte des valeurs pour le désir d'enfant que les familles continuent à exprimer. On est sur la situation actuelle, hein, puisque dans les freins, hein, qui font que les familles ne concrétisent pas ce désir d'enfant, plus de la moitié des familles, hein, estiment que le contexte actuel globalement défavorable pour avoir des enfants.
Quand on parle du contexte, c'est-à-dire ?
Alors, le contexte actuel, ça va être essentiellement des histoires financières, mais aussi des histoires de logement et puis donc au niveau de l'emploi. Hein. En dernier point, ça, quelque chose qui ne varie pas sur les freins repérés en 2012, c'est que 4 parents sur 10 estiment qu'ils n'ont pas bénéficié d'un soutien suffisant de la politique familiale à l'arrivée de leur premier enfant. Et quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire que là, c'est vraiment quelque chose de fond qui touche toutes les familles. 4 sur 10, c'est important, estiment ne pas avoir été suffisamment accompagnés, soutenus par une politique familiale ambitieuse.
François Lebec, on vient de citer les différentes raisons de cette situation, de ces derniers chiffres qu'on vient de présenter depuis quelques minutes. Vous parliez donc de la situation financière, également donc la situation professionnelle. Est-ce que la stabilité du couple peut faire partie aussi d'un des freins, justement, d'un projet enfant ?
Le désir d'enfant s'inscrit dans un couple stable. Ça, c'est le point important. Mais ce n'est pas le frein. On ne peut pas dire qu'il y a moins de couples stables en 2023, enfin 2024, qu'il y a une dizaine d'années. Ça ne varie pas. Ce qui est significatif, c'est que l'arrivée du premier enfant est de plus en plus tardive. Pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, c'est-à-dire que la stabilité du couple, c'est une chose, mais ce n'est pas la seule, hein, puisque donc c'est la première chose. Hein. 57% des familles disent pour avoir des enfants, il faut être en couple stable. Ça, c'est la priorité.
Bien sûr.
Mais tout de suite derrière, avoir un logement adapté à 54%. une famille s'inscrit dans un environnement, un cocon familial, j'ai envie de dire, et le logement constitue ce premier levier. Et actuellement, on parle de la crise du logement, enfin, je veux dire, ça reste compliqué. L'accession à la propriété, par exemple. Donc ça, c'est un des freins, c'est-à-dire que si on n'a pas l'espace suffisant pour accueillir un enfant ou plusieurs enfants dans des conditions matérielles de logement suffisantes, eh ben c'est un frein. Et puis juste derrière, 48% des personnes interrogées, hein, des parents interrogés, des familles interrogées, évoquent le manque d'argent, le besoin d'argent, avoir assez d'argent pour avoir des enfants. Et ce critère d'avoir suffisamment d'argent est encore plus déterminant pour les personnes qui actuellement n'ont pas d'enfants, puisque ce chiffre monte à 61%. Là, il y a une variation importante par rapport à 2012 au niveau des enquêtes réalisées par l'UNAF.
François Lebègue, président de l'UDAF de la Marne, avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF. Merci d'être avec nous pour étudier cette dernière étude et ces derniers chiffres concernant la fécondité qui ne cesse de baisser depuis de nombreuses années, que ce soit en local ou même en national. Alors justement, plus de la moitié des familles estiment le contexte actuel en France globalement défavorable pour avoir des enfants. Est-ce que c'est un contexte qu'on retrouve même en dehors de la France ?
Alors, j'allais dire, en France, on commence à le rencontrer de façon pas significative,
oui.
Puisque au niveau des pays européens, voire même mondiaux, le taux de fécondité en France était un des plus élevés, hein, sur les pays développés que l'on connaît. Et on avait même régulièrement des délégations de pays étrangers qui venaient observer la politique familiale en France. Qu'est-ce qui fait que ce taux de fécondité était au-delà des deux enfants par famille? On rattrape quelque chose d'existant. Ça veut dire que notre politique familiale n'est plus suffisamment incitative, comme on avait pu l'observer dans les années 90-95,
oui,
avec les évolutions du congé parental significatif, donc dès le deuxième enfant à l'époque, pour les familles. Donc c'est aussi une des conséquences d'une politique familiale un petit peu en berne, un petit peu timide, tiède, qui ne s'inscrit pas dans la durée, puisque on évoque régulièrement des modifications, des évolutions qui ne vont pas toujours dans le sens des familles, et notamment pour cette conciliation vie familiale, vie professionnelle, hein, puisque on parlait des 48% de familles qui disent qu'il faut avoir assez d'argent. Et bien évidemment, cette question financière est devenue aussi importante que est reliée de façon très importante au travail stable pour les familles. Donc toutes ces conditions actuelles qu'on évoquait, hein, d'une société, j'allais dire, inquiétante sur certains aspects.
Hein,
si on a du mal, désir d'enfant, c'est croire en l'avenir. Ben, l'avenir n'est pas forcément toujours tout rose pour les familles.
Avant de nous quitter, François Lebègue, le temps passe assez vite. Pour conclure très brièvement, on peut résumer que donc le désir est toujours là. Malgré tout, il y a toujours moins d'enfants, moins de fécondité. La solution est simple, améliorer ce contexte. Pour résumer, François Lebègue, que ce soit sur la partie logement, que ce soit sur la partie financière, professionnelle.
J'ai envie de citer un autre chiffre qui, là, lui, est significatif.
Oui.
C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle, nous, le calendrier des naissances, c'est-à-dire que, vous savez, quand on projette un désir d'enfant, on s'inscrit un peu dans la durée, bien évidemment. On envisage d'avoir un enfant à tel âge, à telle période, quand on aura un logement, etc. Et le calendrier des naissances, là, c'est impressionnant et davantage subi, notamment pour le premier enfant. C'est-à-dire que 21% des parents, 21%, c'est-à-dire un quart des parents,
oui,
auraient souhaité avoir leur premier enfant plus tôt, contre 9% il y a 12 ans. C'est-à-dire que là, on a fait un bond phénoménal,
oui,
de ce calendrier subi. C'est-à-dire que le désir d'enfant reste malgré tout présent pour ces parents-là. Ils ont un premier enfant, peut-être un deuxième, mais ils vont vite s'arrêter, alors que le désir d'enfant est d'une famille en général de 3 enfants et plus, dans la grande majorité des cas. Le premier enfant plus tard, ce qui explique aussi une baisse de la fécondité au niveau de la population française.
Merci François Lebègue, président de l'UDAF de la Marne, Union départementale des associations familiales, mais aussi administrateur à l'UNAF, d'avoir été avec nous aujourd'hui en ligne sur RCF. À très bientôt.
Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.
Tout est dit dans cette interview. On vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain à 18h10 pour le magazine régional. Bonne soirée, Mélissa.
Bonne soirée.
Bonne soirée, Fabrice. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain à 18h10. Tout de suite, l'info nationale.